Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
C'est une île, quelques 35 960 km² située au large des côtes chinoises. Elle constitue l'essentiel d'un État. Non membre de l'ONU et non reconnu officiellement par la plupart des pays du monde, son nom officiel est peu usité. On peut dire effectivement République de Chine. Enfin, elle est importante par sa puissance économique et par le rôle qu'elle joue en Asie orientale. Vous aurez peut-être reconnu l'île de Taïwan. C'est à ce pays que je vous propose de nous intéresser dans Éclairage aujourd'hui. Éclairage sur cette île encore appelée Formose depuis 1949, seul territoire administré du fait par la République de Chine nationaliste, qui voudrait aujourd'hui prendre le large et acquérir son indépendance. Le mois dernier, l'indépendantiste Chen Shui-bian a été réélu à la présidence, qui ne fut pas sans créer quelques tensions. En avril 2004, à l'occasion du 25e anniversaire du Taiwan Relations Act, régissant les relations entre les États-Unis, Taïwan et la Chine, un haut responsable américain déclarait justement qu'il fallait stopper les efforts de Taipei vers l'indépendance. Taïwan au cœur de l'actualité, que représente ce pays aujourd'hui en Asie? Quelles relations internationales, politiques et économiques peut-on entretenir avec cette île? Parlons-en avec une spécialiste incontestée de la Chine moderne et contemporaine qui a publié de nombreux ouvrages sur la région et collaboré avec d'éminents sinologues du monde entier. Je veux parler de Madame Marianne Bastide Bruguière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour Madame.
Bonjour monsieur.
Alors, l'actualité que nous évoquons, l'académie à laquelle vous appartenez s'y est intéressée récemment, puisque en mars 2004, elle a accueilli celle qui était encore à l'époque ministre de la culture de Taïwan, Madame Chen Yuchu. Alors, nous allons écouter Madame Chen, qui est venue ici même dans les studios de Canal Académie. J'ai eu l'honneur et le plaisir de l'interroger sur ses relations avec l'Europe, sa vision du continent européen, et puis ses goûts artistiques et culturels, puisque Madame Chen, pianiste internationalement connue, reconnue, qui a fait justement une grande partie de ses études musicales à Paris. Alors avant d'écouter ce témoignage, auquel je vous demanderai de réagir, madame, permettez-moi de vous présenter Marianne Bastide Bruguière, normalienne, agrégée d'histoire et géographie, docteur ès lettres. Vous avez étudié le chinois à l'École nationale des langues orientales vivantes et puis avez enseigné à l'Université de Pékin, c'était au milieu des années 60. Alors, pourquoi, je dirais en première question, pourquoi avoir jeté votre dévolu sur cette région du monde?
Parce que au moment où j'ai commencé mes études de chinois, il y avait très peu de gens qui s'intéressaient en France aux questions chinoises, puisque nous n'avions pas de relations diplomatiques avec la Chine. Et ça me paraissait un domaine considérable, extraordinairement intéressant, et donc je me suis lancée là-dedans sans savoir si... où cela me mènerait. Mais il se trouve que le choix était plutôt bon, puisque c'est une partie du monde qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance et dont la civilisation, la puissance économique aussi, s'est développée de façon considérable depuis 25 ans.
Mmh. Alors, Taïwan fait partie de ces pays que vous connaissez bien. Je dressais à l'instant un rapide et donc incomplet portrait de cette île. Peut-on dire, Madame Bastide Bruguière, qu'elle est aujourd'hui à un tournant de son histoire ou qu'elle ne fait finalement que connaître un épisode supplémentaire de sa vie politique, notamment?
Non, c'est un épisode de la vie politique. C'est un soubresaut. Et d'une part, les Taïwanais et d'autre part, le continent sont en réalité très conscients des dangers d'escalade et peu désireux qu'il y ait des dangers et qu'il y ait une escalade. Parce que les Taïwanais, bien sûr, certains sont attachés à l'indépendance, et puis surtout, c'est une île qui vit à l'écart du continent pratiquement depuis 1895. Ça fait plus d'un siècle, puisqu'en 1895, elle est devenue colonie japonaise. L'Empire chinois a dû la céder au Japon. La domination japonaise a duré jusqu'en 1945. Ensuite, pendant 4 ans à peine, elle a été de nouveau rattachée au continent quand Chiang Kai-shek a récupéré Taïwan après la défaite du Japon. Et puis quand Chiang Kai-shek s'est fait éjecter par les communistes, Chiang Kai-shek s'est réfugié à Taïwan et Taïwan est devenu le siège de la République de Chine, c'est-à-dire de ce qu'il restait de la domination de Chiang Kai-shek sur le continent. Et elle a été complètement séparée du continent, du coup, depuis 1949. Alors, depuis les années 1980, des contacts commerciaux se sont développés beaucoup entre les deux, entre les deux rives du Delta. Mm-hmm. Beaucoup de Taïwanais sont installés maintenant sur le continent. À Shanghai, on prétend qu'il y a 200 000 Taïwanais qui sont installés. Les Chinois du continent ont plus de difficultés à venir à Taïwan, bien que beaucoup essaient d'émigrer là-bas parce qu'on manque de main-d'œuvre et qu'ils pensent aussi que le niveau de vie est beaucoup plus élevé à Taïwan que sur le continent. Le niveau de vie à Taïwan, le revenu moyen par tête d'habitant est de 14 000 dollars américains alors que, par an. Alors que sur le continent, c'est 1000 dollars américains. Donc la différence de niveau de vie est considérable. Ce qui explique que les Taïwanais n'aient aucune envie de revenir sous la coupe du continent parce qu'ils craignent de perdre leur prospérité. Et quand ils voient ce qui est arrivé à Hong Kong, on peut penser qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que le déclin économique de Hong Kong est quand même en route.
Donc, qui a quitté le giron britannique en 1997,
oui, hein, Hong Kong. Hong Kong a été rattaché à la Chine continentale. Après, les Anglais ont été obligés de se retirer en 1997. Et depuis 1997, la situation économique de Hong Kong est beaucoup moins brillante qu'elle l'était auparavant.
Donc, on observe ça à Taïwan et on se dit...
On le pensait déjà avant. Mais si vous voulez, Hong Kong est un test quand même. Et on voit que la prospérité économique est quand même beaucoup moins évidente qu'auparavant. Et surtout, ça, les Taïwanais en étaient persuadés que la domination politique de la Chine continentale sur Hong Kong est forte. Même si Hong Kong a un régime politique spécial, Pékin vient de dire qu'il n'y aura pas d'élection au suffrage universel pour désigner le chef de l'exécutif de Hong Kong. Hein? Tandis que les Taïwanais ont maintenant une démocratie, déjà depuis plus de 20 ans. Donc, tous ces éléments, il faut réfléchir les Taïwanais. Je pense que, fondamentalement, peut-être qu'ils ne... certains d'entre eux veulent l'indépendance, ça, c'est pas douteux. Dans la masse de la population, et les résultats de l'élection récente le montrent, on ne veut pas être attaché au continent maintenant. Mais en même temps, on ne veut pas non plus se mettre dans une position où le continent déclencherait une attaque militaire. Parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas résister.
Mais la Chine fait quand même quelques gestes militaires, enfin des gestes pas vraiment positifs pour Taïwan, mais fait des démonstrations de force.
Que Pékin veut empêcher qu'il n'y ait une croissance du mouvement indépendantiste réel, enfin profond. Et donc maintient des menaces pour faire réfléchir la population. Et les moyens d'action de Pékin sont considérables, parce que si Pékin tout d'un coup déclarait que les marchands taïwanais, les hommes d'affaires taïwanais ne peuvent plus venir sur le continent, ce serait une catastrophe pour l'économie de l'île. Parce qu'actuellement, le développement économique de l'île dépend dans une large mesure du marché continental. Donc Pékin a énormément de moyens de rétorsion entre ses mains. Mais Pékin... ne veut pas non plus se mettre complètement à dos la population, sinon jamais la réunification ne pourra se faire. Donc c'est un jeu qui ressemble un peu à ces luttes qu'on voit dans les villages chinois entre deux hommes qui luttent entre eux à main nue, hein, en essayant de se renverser par terre, en se faisant beaucoup de grimaces pour se faire peur réciproquement, en faisant attention de ne pas se faire trop mal,
les tensions actuelles existantes entre Taïwan et la Chine sont à un niveau particulièrement élevé par rapport à ce que l'on a connu les années précédentes.
Ah non, il y a eu des moments où quand même le continent a fait des démonstrations militaires avec du feu, de la puissance du feu. Actuellement, ce n'est pas le cas. Alors... actuellement...
Il y a quelques tirs de missiles dans la mer de temps à autre, mais bon...
De temps à autre, oui, mais à vide. Alors, actuellement, il y a une certaine tension qui monte parce que l'intronisation du président Chen Shui-bian, enfin l'inauguration de son nouveau mandat, doit se tenir le 20 mai.
C'est son deuxième mandat.
C'est son deuxième mandat. Que les services secrets américains ont prévenu Taïwan qu'il était possible que le continent fasse des démonstrations militaires dans le Delta, dans le Détroit. Mais hier, le chef d'état-major de Taïwan a été extrêmement calme et a répondu à des questions à ce sujet que il y avait effectivement des bateaux de guerre chinois qui étaient allés à Hong Kong, mais que ces bateaux de guerre n'allaient à Hong Kong que pour fêter le 65e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération, l'armée chinoise du continent. Donc c'était tout à fait normal qu'il y ait à cette occasion une cérémonie et des bateaux de guerre qui se déplacent. Donc il a montré un calme absolu là-dessus. Je pense que certainement, tout est en état d'alerte et qu'on fait très très attention. Mais je ne suis pas sûre que le gouvernement chinois actuel, avec la nouvelle direction chinoise à Pékin, s'amuse à faire des démonstrations militaires. Je pense qu'ils ont manifesté leur mécontentement, ils ont manifesté qu'il y avait des limites à conserver et qu'ils seraient intransigeants sur des points de principe. Ils ont aussi beaucoup de problèmes à l'intérieur et ils n'ont certainement pas envie de se mettre un début de conflit sur les bras. Les Américains non plus, ils en ont assez avec l'Irak. Or, les traités qu'ont les Américains avec Taïwan les obligeraient à intervenir s'il y avait vraiment une menace sérieuse du continent. D'aucun côté, on a intérêt à ce que les affaires se gâtent.
Canal Academy reçoit aujourd'hui dans l'émission Éclairage Madame Marianne Bastide Bruguière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, grande spécialiste de la Chine moderne et contemporaine. Et nous parlons de Taïwan, l'actualité de Taïwan, actualité politique et économique. Et comme prévu, Madame Bastide Bruguière, je vous propose d'écouter donc Madame Chen Yuchu, rencontrée ici même dans ses studios de Canal Academy à Paris au mois de mars 2004, alors qu'elle occupait encore le poste de ministre de la Culture de Taïwan. Et je lui demandais dans un premier temps de nous retracer un petit peu l'historique de ses relations avec la France qu'elle aime tant.
Mon père est un peintre. Alors, depuis que je suis petite, à l'âge de 6 ans ou 7 ans, il pratique le français parce qu'il étudie le français avec une bande magnétique. Il n'a pas bien appris le français, mais moi, je sais déjà le français. Dès que l'âge de 7 ans ou 8 ans, je me rappelle, c'est un texte assimile. Le premier leçon, c'est papa téléphone, maman tricote. Quelque chose comme ça, très amusante. Ça veut dire que dès que je suis très jeune, je connais déjà le français, la langue française. Et comme il est peintre, il admire beaucoup la peinture européenne surtout. La France.
Impressionniste.
Impressionnisme. Oui. Alors, je connais déjà toutes les peintures impressionnistes dès l'âge de 10 ans. À 16 ans, je viens à Paris pour faire mes études musicales. Donc, pendant 10 ans, à Paris, j'ai eu mon prix de piano et mon prix de musique de la chambre au Conservatoire National Supérieur de Paris. Après, à 76, je rentre à Taïwan. Mais à Taïwan, dans l'université, j'étais professeur et ensuite je deviens de dean, doyen de la département de la musique et puis de fine art. Mais pendant ce temps-là, ce que je fais le plus, c'est de présenter la musique française. Ça veut dire j'aime beaucoup Fauré, Ravel et Debussy. Et à l'époque, à Taïwan, presque personne qui connaît toute la musique française. Donc, pendant 20 ans de mon renseignement à l'université, je suis le spécialiste français, disons, dans le monde musique. Donc, je garde toujours le lien avec la France. Même, j'ai quitté la France en 16. Après, je retourne chaque année. Tous les l'été, je reviens, je trouve mes camarades, anciens camarades. Même cette fois-ci, j'ai retrouvé mes camarades. Et puis, je viens pour voir l'expo ou bien je participe le festival d'été. J'aime beaucoup la France, c'est presque mon second pays.
Alors, vous êtes une pianiste connue, reconnue au niveau international, et cette culture européenne a vraiment joué beaucoup, je dirais, sur votre évolution personnelle.
Oui, parce que quand j'étais venue à Paris, mon professeur, M. Jean Doyen, qui m'a demandé « Est-ce que vous connaissez bien votre musique à vous-même ?» Et à l'âge de 16 ans, tout à coup, ça me donnait une surprise parce que je n'ai jamais pensé à cette question. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, après mes études en France, quand je rentrerai à Taïwan, je vais connaître la musique taïwanaise. À cette époque-là, nous étions sous le gouvernement de Chiang Kai-shek et c'était sous la loi martiale. Donc, nous n'avons pas la liberté d'apprendre notre propre musique jusqu'à 87. Mais pendant ce temps-là, je continue à étudier et rechercher la musique taïwanaise.
Le fait que le doyen vous ait posé cette question, ça vous a choqué? Ça vous a au contraire curieusement interpellé?
Ça veut dire quand il m'a posé cette question, ça m'a donné une surprise d'abord, mais ensuite, je pense à moi-même. Ça veut dire, je pense que quand j'étudie en France, je vais étudier la musique occidentale, mais avec la méthode que j'apprends, je vais rentrer dans mon pays et rechercher la musique qui m'appartient. Mmh. Et je faisais ça depuis le 76 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis spécialiste dans la musique française, mais je suis spécialiste dans la musique taïwanaise depuis presque 25 ans.
Bel éclectisme en tout cas. Alors, vous avez présenté ces derniers jours une communication dans le cadre du Palais de l'Institut de France, donc pour l'Académie des sciences morales et politiques, une communication intitulée « L'Europe vue par l'Asie ». Alors, est-ce une Europe proche ou plutôt lointaine ?
J'avais, dans mon exposé, j'avais fait d'abord dans la moitié du XXe siècle, au début, l'Europe a beaucoup d'influence pour l'Asie, parce que c'est l'idéal de tous les Asiatiques. Mais de 1950 jusqu'à 2000, nous avons l'impression que l'Europe se retraite. Ça veut dire que c'est les États-Unis qui viennent en Asie. Et 50 ans passés, tout est changé. Maintenant, l'Europe a moins d'influence sur l'Asie, presque disparue. Et je trouve que ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, les jeunes dans l'Asie, on connaît mieux les États-Unis que l'Europe. Donc, l'Europe, je crois, ils ont perdu leur influence en Asie, dans le domaine politique, social, études ou bien artistique aussi.
Oui, vous le dites justement, je vous cite, « La puissance économique et militaire de l'Europe a été le principal vecteur de la diffusion de sa culture. » Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Non, justement. Et par exemple, le français, l'allemand, l'espagnol, qui sont pratiqués par les jeunes, presque un poignet d'étudiants, que tout le monde parle l'anglais et même les parents des étudiants qui demandent de commencer l'éducation de l'anglais plus tôt, dès le jardin d'enfants. Donc, tout le monde parle l'anglais, mais personne ne parle français, l'allemand, l'espagnol. Et si vous demandez aux jeunes, si vous connaissez Camus, ou bien vous connaissez Picasso, ou bien est-ce que vous connaissez Matisse, des jeunes ne peuvent plus répondre que dans mon temps. presque tout le monde peut répondre. L'étranger de Camus, tout le monde a lu, etc.
Parlez-vous, Madame le Ministre, pour autant de déclin de l'Europe, vu de l'Asie. Est-ce que vous employez le terme à dessein?
Ça veut dire que j'avais lu dans le livre de français, mais je pense que c'est la vérité. Mais dans mon exposé, j'ai dit aussi que c'est une bonne signe, parce que si on commence à réfléchir, c'est déjà un pas en avant pour la guérison. Et je pense que l'Europe a une tradition aussi solide et si fondamentale. Si vous pensez déjà à ce problème, je crois que vous pouvez surmonter le dégât.
Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte un appel que vous lancez à l'Europe? En disant, faites attention, il y en a d'autres là qui sont en train de prendre votre place en Asie.
Oui, oui, ça veut dire, je pense, il faut qu'on pense et de changer la position pour voir la culture mondiale. Parce que maintenant, c'est la culture américaine, disons, c'est le Hollywood qui envahit tout le monde. Et je trouve que c'est quand même, tout le monde doit faire attention. Parce que la culture occidentale est très profonde et très importante. Et je lance cet appel, je pense peut-être que j'aurai la réponse.
Alors, peut-être une partie de la réponse se trouve dans la Fondation culturelle franco-taïwanaise, oui, qui a été créée en 1996 par la présidente de l'époque, donc du Conseil national des affaires culturelles. Quel est l'objet de cette fondation, madame, aujourd'hui?
Cette fondation, ça veut dire chaque année nous décerner un prix franco-taïwanais pour les personnes qui cultivaient la culture taïwanaise ou la culture française, ou bien des échanges internationaux entre deux pays, ou bien des échanges entre Taïwan et l'Europe. Je trouve que je dois dire un grand merci à M. le chancelier, M. Pierre Mesmer, parce que il respecte beaucoup ce prix. Et nous avons travaillé ensemble et nous avons vu comment il considère que c'est important les échanges entre la culture. Et je voulais dire encore une fois, je trouve toujours le dialogue entre les cultures, c'est la meilleure manière pour avoir la paix dans le monde.
Alors, la France est dans l'Europe, évidemment, mais Taïwan et la France sont quand même très, très proches et vous en êtes la preuve vivante aujourd'hui, Madame la Ministre, et nous vous en remercions. Mais outre la Fondation, comment se manifeste la présence culturelle taïwanaise en France aujourd'hui et, je dirais, plus largement en Europe?
Oui, par exemple, la culture taïwanaise est très moderne. Je crois que les Français, peut-être, ne connaissaient pas beaucoup, mais nous avons déjà présenté presque plusieurs présentations modernes de l'art de Taïwan. Par exemple, Cloud Gate qui a joué dans le festival d'Avignon qui a beaucoup de succès. Nous avons de Han Tang Yue Fu aussi. Nous avons de groupes de modernes de danse ou go. Nous avons de U Theater qui ont beaucoup joué en France. Donc, les Français aiment beaucoup. Et ensuite, nous avons participé aussi au festival de Lyon aussi. Et peut-être l'année prochaine, nous allons participer à le festival de Aix-en-Provence. Mm-hmm. Ça veut dire beaucoup des échanges. Et nos artistes ont beaucoup joué à Palais Chaillot aussi. Et nous accueillons aussi des artistes français à Taïwan. Et nous faisons même créer une opéra qui est écrite par Gao Xingjian. C'est le prix de Nobel de littérature. Et c'est coopérer l'opéra occidental et l'opéra chinois. C'est une création tout à fait spéciale. Et la musique est écrite par un musicien qui vit à Paris, un Chinois. Mais tous les acteurs, tous les musiciens de l'orchestre, ça veut dire sur la scène, nous sommes 200 personnes, 200 artistes sur la scène. En même temps, ils jouent une œuvre créée tout à fait moderne et qui sera jouée à l'Opéra de Marseille à la fin d'année.
Voilà donc pour le témoignage de Madame Chen Yuchu, qui n'est plus aujourd'hui ministre de la Culture de Taïwan, mais conseiller auprès du président de la République pour les affaires culturelles et les relations culturelles internationales. Alors nous aurons bien sûr à ce titre l'occasion de l'inviter très probablement une autre fois sur Canal Academy. Alors Madame Bastide Bruguière, je rappelle que vous êtes l'invitée de l'émission Éclairage sur Canal Academy aujourd'hui, spécialiste de la Chine moderne, contemporaine. Ce sentiment, je serais tenté de vous demander votre réaction aux propos que nous venons d'entendre, notamment ce sentiment, ce regard de Taïwan sur l'Europe d'aujourd'hui, un sentiment que vous confirmez depuis l'Asie.
Oui et non. C'est-à-dire que oui, je le confirme pour la génération de Madame Chen. Cette déception qu'elle exprime de façon très mesurée, parce que pour d'autres, ça a été vraiment très dur d'accepter au fond, la rupture, le fait que Taïwan n'est plus reconnu par les pays européens, par la France, à commencer par la France, etc. Et que dans toutes les affaires de relations, il y a toujours des difficultés parce que le gouvernement craint que Pékin n'exerce des représailles si on est trop gentil avec Taïwan, si on fait telle chose. Et Pékin, évidemment, surveille les choses de très près. Et utilise sa puissance, le fait que c'est un énorme pays et que, évidemment, le commerce avec la Chine continentale qui fait 1,3 milliard d'habitants paraît plus important pour un gouvernement européen que le commerce avec Taïwan où il y a 22 millions d'habitants. Et Madame Chen exprime cette amertume des gens de Taïwan. Mais je pense que dans la jeune génération de Taïwan, des gens qui, je vois cela parmi les étudiants, des gens qui ont 20 ans, donc qui n'ont pas connu l'époque où Taïwan représentait la République de Chine, enfin représentait vraiment la légitimité chinoise, et donc qui n'ont pas connu l'époque où Taïwan avait des relations diplomatiques normales dans les années 70 avec tous les pays du monde, hein. Cette jeune génération qui n'a pas connu cette époque, qui a toujours connu une île un peu marginale, n'a pas la même vision. Et je suis étonnée de voir que dans cette jeune génération, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en Europe et qui s'intéressent à l'Europe et qui regardent les choses de façon très réaliste en considérant... ils sont un peu écœurés par l'énormité de l'influence américaine qui a vraiment tout envahi et qui a envahi beaucoup de choses à Taïwan. Et ils cherchent autre chose. La Chine du continent les attire, bien sûr, parce que c'est la civilisation chinoise du passé qu'ils retrouvent. Mais la vie actuelle sur le continent, pour eux, elle a un attrait quand même limité. Parce que les conditions matérielles sont plus dures que chez eux, et ce qu'il y a de vie commerciale, de vie moderne, ils l'ont chez eux, donc ça n'est pas un attrait nouveau par rapport à eux. Ils sont donc un peu lassés du côté de la culture américaine et cherchent autre chose, et l'Europe leur paraît quelque chose de différent. D'autre part, l'Union européenne et le fait que l'Europe maintenant a quand même une monnaie commune et que ces pays maintenant sont à 25 ensemble, leur paraît représenter une sorte de force dans le monde. Et donc on a une jeune génération qui vient vers l'Europe attirée par la diversité européenne, par le fait que quand même c'est un ensemble relativement constitué, beaucoup moins disparate qu'autrefois. Et il y a des relations nouvelles qui se nouent et des gens, qui, parmi les artistes par exemple, qui sont intéressés par la création en Europe. Pas forcément la création en France, ça peut être la création en Allemagne, en Italie, etc. Mais il y a de nouveau un mouvement de retour vers l'Europe.
Donc vous êtes nettement moins pessimiste que Madame Chen.
Non, mais Madame Chen était dans sa fonction. D'abord, quand elle est venue, qu'elle a fait son exposé, elle était ministre du gouvernement de Chen Shui-bian. Et il était normal qu'elle prenne cette attitude, d'autant plus que très peu de temps avant son voyage, M. Chirac avait quand même tenu des propos sur la tenue du référendum à Taïwan, qui était pour un membre du gouvernement de Taïwan quelque chose
un affront.
De peu un affront direct, oui. Elle a été très modérée, très modeste dans ses propos, mais enfin, la position qu'elle a prise était quand même normale de manifester une déception.
C'est-à-dire que M. Chirac s'était prononcé contre le référendum visant
Monsieur
à l'indépendance.
Chirac a dit dans ses conversations avec les autorités de le chef du gouvernement de Pékin, que la tenue d'un référendum à Taïwan pour savoir si Taïwan devait ou non continuer à augmenter sa défense contre le continent, était illégitime. C'était une intrusion tout à fait étrange dans les affaires intérieures d'un autre pays. Et en plus, de la part d'un président français, refuser le droit de référendum, qui est quand même une manifestation imminente de la démocratie, un pays qui est un pays démocratique, dans lequel le président de la République est élu au suffrage universel et les parlements aussi, c'était gros.
Donc, aujourd'hui, dans l'esprit de Taïwan, des Taïwanais, l'Europe renaît, si je vous comprends bien. Il y a eu une Europe...
Je pense que, probablement... Dans l'élite politique de Taïwan, ils sont très attentifs à ce qui se passe en Europe, parce qu'ils ont une vision géopolitique et ils savent très bien que il faut compter avec tout ce qui existe dans le monde et qui compte dans le monde. Mais dans la jeune génération, si vous voulez, des gens qui ne font pas de calcul politique, il y a un intérêt pour l'Europe et il y a beaucoup d'étudiants taïwanais qui viennent faire des études en Europe. Il y en a bien sûr un très très grand nombre qui vont toujours aux États-Unis, mais enfin, il y en a beaucoup qui viennent en Europe.
Mais la tradition est encore très présente à Taïwan, puisque l'île aujourd'hui, ce sont environ 22 millions d'habitants. La population est composée de plusieurs strates qui correspondent à des phases successives de peuplement. Et l'on y trouve encore plusieurs centaines de milliers de descendants des premiers habitants de l'île. Donc il y a encore cette tradition qui est forte.
Mais c'est-à-dire que la population de l'île a trois grandes composantes. Il y avait ce qu'on appelle les aborigènes, c'est-à-dire en réalité des populations austronésiennes, dont on ne peut pas dire que c'est les populations d'origine, parce que probablement elles sont venues de la mer, mais à une époque très 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 reculée. En tout cas, ce sont ces populations austronésiennes, ce ne sont pas des populations chinoises, ce ne sont pas des populations Han, qui occupaient l'île quand les colons chinois sont venus des côtes du sud de la Chine au XVIIe siècle seulement. Et il y a eu une première vague d'émigration chinoise du sud de la Chine dans l'île de Taïwan au XVIIe siècle. Puis ça a continué au cours du XVIIIe siècle. C'est toujours des gens du sud qui sont venus. Après cela, la grande autre vague d'immigration, ce sont des gens du continent qui sont venus avec Chiang Kai-shek au moment de la dissolution, enfin de la déroute de Chiang Kai-shek en 1948-49. Il y en avait déjà qui étaient venus depuis 1945, c'était l'administration qui avait été envoyée par le gouvernement de Chiang Kai-shek pour prendre possession de l'île. Mais enfin, la vague d'émigrés du continent est venue donc en 1948-49.
C'est-à-dire le moment où c'est devenu le bastion de l'anticommunisme.
C'est ça. Et alors là, ce sont des gens qui sont venus de toutes les provinces de Chine, parce que l'administration de Chiang Kai-shek comportait du personnel venu de toutes les provinces, mais en particulier des gens qui venaient des provinces centrales. Il y a eu beaucoup de gens de la province du Jiangsu, puisque la capitale de Chiang Kai-shek était établie à Nankin, dans la province du Jiangsu. Des gens de Shanghai, et puis des gens du nord de la Chine aussi. Et une partie de l'armée de Chiang Kai-shek, qui était composée d'officiers, mais aussi des soldats tout à fait ordinaires, a été aussi transportée à Taïwan. Donc à ce moment-là, il y a eu à peu près 1 million, 2 millions de gens qui sont venus. Et ensuite, ces gens ont formé les cadres de l'administration de Chiang Kai-shek à Taïwan. Et cela a contribué à durcir l'opposition entre Taïwanais. Mais ces Taïwanais, c'était des gens du sud de la Chine, acclimatés à Taïwan, des Han, des Chinois. Les tribus des montagnes, les tribus aborigènes plutôt, Au fur et à mesure de l'avenue des colons chinois au XVIIe et au XVIIIe siècle, elles avaient été massacrées en grande partie et repoussées dans les montagnes. Elles vivaient dans les montagnes et elles n'ont pas participé, si vous voulez, à la vie politique et à l'opposition à Chiang Kai-shek à partir de 1949. Non, ils étaient dans leurs montagnes un peu oubliés. Donc l'antagonisme, il a été entre des Chinois de première émigration, venus au XVIIe, XVIIIe siècle, qui étaient des gens du Sud, qui parlaient aussi une langue du Sud, et puis les émigrés du régime déchu, qui étaient plutôt des gens du Nord et qui parlaient une langue différente, qui parlaient en général d'ailleurs ce qu'on appelle le mandarin, c'est-à-dire la langue commune de la Chine, et qui sont arrivés plus tard, qui ont pris les postes de gouvernement, ce que la population de Chinois locale, la population locale des Chinois a très mal ressenti. Mmh. Et puis, il y a eu des incidents très graves, mais les incidents très graves sont passés en 48, où il y a eu une révolte des Chinois locaux contre les autorités envoyées par Chiang Kai-shek, et révolte qui a été écrasée dans le sang, et qui a laissé pendant très longues années des souvenirs et oui, une haine profonde contre les gens du continent. Mais tous ces phénomènes-là se sont quand même apaisés et il y a toujours dans la population une certaine différence entre ceux qui sont locaux de Taïwan, c'est-à-dire ceux dont les ancêtres sont arrivés avant 49 à Taïwan, et ceux qui sont, qu'on appelle les gens des autres provinces, et qui sont arrivés après 49. Mais en fait, ces gens des autres provinces, maintenant ils ont des enfants qui sont nés à Taïwan, et ces enfants nés à Taïwan, ils ont à peu près la même vision des choses que ceux qui sont vraiment originaires depuis plus longtemps de Taïwan.
Marianne Bastide-Bruguière, je vous propose de marquer un premier instant de pause dans cette émission. Je rappelle que vous êtes notre invité dans Éclairage, l'émission de Canal Académie. Aujourd'hui, nous parlons de Taïwan avec Marianne Bastide-Bruguière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, grande spécialiste de la Chine. Taïwan, l'actualité politique et économique, nous y revenons dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne, les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio Canal Académie.
On retrouve Édouard Rosset.
Nous parlons de Taïwan aujourd'hui avec Madame Marianne Bastide-Bruguière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et, faut-il le rappeler, grande spécialiste de la Chine, qui a travaillé avec de nombreux sinologues à travers le monde et qui est évidemment l'auteur de nombreux ouvrages également sur la question. Madame Bastide-Bruguière qui recommande d'ailleurs la lecture d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Economica et signé Jean-Pierre Cabestan. Le livre est intitulé « Chine-Taïwan, la guerre est-elle concevable ?» Alors avant la pause, Madame Bastide-Bruguière, nous étions en 1949 précisément, c'est la réforme agraire avec la mise en place d'une classe de petits propriétaires exploitants. Et puis viennent ensuite les années 60-70, Taïwan connaît alors une belle croissance pendant cette décennie. On parlait d'ailleurs alors de miracle économique qui a fait de l'île l'un des quatre dragons asiatiques. Que peut-on dire aujourd'hui justement de cette réussite taïwanaise? Est-ce que la base de la réussite taïwanaise est réellement son industrie? Sidérurgie, cimenterie, raffinerie de pétrole, pétrochimie.
Ah non, maintenant ils ont changé et maintenant la base de leur...
Je parle de l'évolution,
c'est-à-dire
la base de la prospérité.
Oui, dans les années 60, c'est comme ça que s'est édifiée la puissance taïwanaise. Mais aujourd'hui, c'est toute l'industrie de la...
Des nouvelles technologies.
Des nouvelles technologies, c'est l'industrie de l'information et c'est la fabrication de processeurs. Enfin, ils sont toujours à la pointe de l'industrie des hautes technologies. Et maintenant, ils investissent dans les nanotechnologies, dans tout ce qui est le biomédical, et ils sont tout à fait à l'avant-garde dans ce domaine. Ah oui, ils ont d'excellents scientifiques. Et d'autre part, ils suivent un peu le système japonais. Ils ont quand même été formés par le Japon à l'origine. Ils mettent donc beaucoup l'accent sur la recherche et le développement. Et dans le nouveau gouvernement que vient de former, constituer le président de la République, le Premier ministre Yu Shukun a été désigné, il y a de grands scientifiques chargés, notamment l'ancien directeur de l'Institut de physique de l'Academia Sinica, qui est un peu leur CNRS. Qui va devenir ministre de la technologie. Et c'est un savant qui a beaucoup fait pour le développement de la recherche sur les nanotechnologies à Taïwan. Il y a aussi un autre scientifique important qui s'appelle Lin Fengqing et qui est président de l'Institut des industries de l'information et qui sera ministre chargé de la science aussi.
On peut leur envier beaucoup de choses sur le plan technologique, justement, sur la recherche, nous, en Europe. Est-ce qu'on doit craindre Taïwan aujourd'hui ?
Ils ont été... Il n'y a pas à craindre Taïwan. Je pense qu'il y a plutôt à coopérer avec Taïwan. Et je pense que le souci des Taïwanais aussi, c'est de pouvoir coopérer. J'ai vu qu'il y a un ou deux jours... l'Union européenne, dans ses projets de développement de la recherche, a demandé la collaboration de savants taïwanais pour des recherches biomédicales. Les Taïwanais ont beaucoup utilisé la formation américaine, la coopération avec les laboratoires américains, donc ils ont aussi... toujours des savants qui sont encore installés aux États-Unis et qui communiquent avec les savants installés à Taïwan. Il y a un échange permanent. Et ils ont aussi, parmi leurs savants, plusieurs prix Nobel. Hein.
Oui, il y a des passerelles possibles.
Ah oui, des passerelles permanentes. Oui. Et maintenant, des passerelles permanentes également avec les laboratoires du continent. Parce qu'il y a beaucoup de coopération, de collaboration scientifique avec le continent.
Alors les profits, il y a les raisons évidemment de la réussite, les profits du système en place ont conduit au développement également d'une grande puissance bancaire et financière. On peut dire aujourd'hui, Madame Bastide-Bruyère, que Taïwan a réussi vraiment sur le plan économique ?
Oui, mais c'est toujours, enfin comme toutes les réussites économiques, c'est toujours fragile parce que c'est dépendant de la circulation à l'extérieur. Or, le statut international de l'île, qui n'est plus reconnu maintenant que par 6 ou 7 pays, qui n'a pas de siège dans les organisations internationales, rend les choses compliquées quand même. C'est toujours vulnérable et fragile. Maintenant... ce sont des Chinois, ils sont de très bons commerçants.
Oui,
une culture commerciale très forte.
Bien sûr.
Et d'autre part, ils ont aussi, ils ont eu la formation japonaise et sur beaucoup de points, et en particulier l'alliance entre la technologie et l'industrie, et ils ont pris les habitudes japonaises, plus que les habitudes du Chinois du continent, qui sont beaucoup moins forts qu'eux là-dessus.
Le modèle économique taïwanais aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un mélange de libéralisme et d'interventionnisme étatique. On peut le présenter de cette manière.
Oui. Le rôle de direction de l'État est assez fort. Enfin, l'État aide beaucoup. Enfin, l'État est très présent. En même temps, la prospérité dépend très largement de petites et moyennes entreprises. Qui sont, elles, des entreprises taïwanaises, c'est-à-dire de ces Taïwanais de souche, et qui n'ont jamais été chercher tellement l'aide de l'État. Ils se débrouillent tous. Leur attitude, c'est plutôt de se débrouiller tout seul, et le moins l'État intervient, mieux ça vaut. Mais malgré tout, de temps en temps, ils ont besoin de l'État. Parce que quand ils ont des difficultés sur leur continent, il faut quand même que leurs autorités politiques les protègent. Et c'est là où ils sont vulnérables, parce que les autorités politiques n'ont pas de statut, c'est toujours la même chose, ils n'ont pas de statut international.
Est-ce qu'ils peuvent aller trouver, je dirais en investissant en capitaux dans les pays voisins, aller trouver une force ailleurs, les voisins asiatiques, notamment la Chine continentale ?
Bien, le souci du gouvernement taïwanais, c'est que les entreprises de Taïwan n'investissent pas que sur le continent. C'est qu'il y ait une diversification. Et il a poussé les petites et moyennes entreprises à investir dans tout le sud-est asiatique. D'ailleurs, cette politique, ce n'est pas une politique récente. Depuis déjà 30 ans, les entreprises de Taïwan ont investi en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam. Et actuellement, beaucoup d'entreprises de Taïwan sont actives au Vietnam. Elles sont actives à la fois sur la Chine, en Chine continentale, au Vietnam. Bon, pendant assez longtemps, elles étaient actives aussi en Corée. Et puis, quand la Corée du Sud a décidé de rompre ses relations avec Taïwan, le mouvement vers la Corée était moins fort. Mais enfin, il y a quand même encore pas mal d'intérêts taïwanais au Vietnam.
Oui. Alors, Taïwan aujourd'hui...
En Corée, je veux dire.
En Corée. Taïwan aujourd'hui, quid des débouchés pour les pays européens ? Nous parlions tout à l'heure des passerelles évidentes.
Oui.
Où sont ces débouchés possibles ? Bon, évidemment, nous parlions des nouvelles technologies.
Il y a pas mal de commerce avec l'Europe aussi. Et il y a des entreprises européennes assez nombreuses qui ont investi à Taïwan. Ça, c'est un mouvement qui s'est fait depuis aussi une vingtaine d'années. Le métro de Taïwan, le métro de Taipei a été quand même construit en partie, et pas toujours très facilement, par Matra.
C'est un beau fleuron européen.
Oui, enfin, ça n'a pas été absolument parfait. Mais enfin, malgré tout, maintenant, le métro marche.
Que s'est-il passé ? Racontez-nous un petit peu.
Et dans la conclusion des contrats, il y a eu des difficultés, parce qu'il fallait qu'il y ait des entrepreneurs locaux pour les travaux d'infrastructure. Et il y a eu là soit des contrats qui n'ont pas été très, très réguliers ou des... Bon, enfin, ça a été un peu compliqué. Le métro n'a pas fonctionné très bien à certains moments. Il y a eu quelques ennuis, des dépassements de devis. Actuellement, c'est à peu près éclusé.
Alors, est-ce qu'il y a quand même certains pays qui peuvent tirer plus profit que d'autres en Europe de Taïwan ? Je pense notamment peut-être aux relations étroites qu'entretiennent la Chine et l'Allemagne, Pékin et Berlin qui viennent de se fixer pour objectif de doubler leurs échanges commerciaux d'ici à 2010 pour atteindre 90 milliards d'euros. La Chine est déjà le principal partenaire commercial de l'Allemagne en Asie.
Oui, les Allemands sont très actifs aussi à Taïwan. Parmi les pays européens qui sont très actifs à Taïwan, il y a les Hollandais. Mais les Hollandais ont une très ancienne tradition de relations avec Taïwan, parce que les commerçants hollandais s'étaient installés à Taïwan au début du XVIIe siècle, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à la Chine, parce que les Portugais les empêchaient d'y aller. Donc ils s'étaient mis à Taïwan. Et les Hollandais ont un commerce important avec Taïwan. Les Scandinaves aussi.
Madame Chan Yu-Chu, que nous avons écouté tout à l'heure, parlait de la vision de l'Europe depuis l'Asie. Nous en parlions également. Alors si on refait un petit peu de nouveau l'histoire, on peut dire que contrairement aux Chinois, dès leur arrivée, les Européens se sont intéressés à l'île de Taïwan. Bon, les Portugais y ont installé des comptoirs avant de baptiser l'île donc Formose, de Formosa la Belle. Et puis les Espagnols ont ensuite été chassés par les Hollandais, vous le disiez. Alors finalement, c'est un pays très cosmopolite.
Oui, parce que c'est une étape obligée sur les routes maritimes. Et au XIXe siècle, beaucoup de puissances, au moment de la marine à vapeur, considéraient que c'était un endroit où on pouvait avoir des dépôts de charbon. C'était un bon point d'ancrage pour les dépôts de charbon. En plus, dans le nord de l'île, il y avait des mines de charbon. Donc Taïwan était, pour la navigation, une étape très importante. C'est vrai, c'est probablement un des points de la Chine où les échanges avec l'extérieur ont été plus constants que d'autres. C'est certain. Et il y a eu des contacts avec l'étranger de façon plus continue que dans d'autres régions côtières de la Chine.
Alors il y a la culture aussi qui est très importante à Taïwan. Tout comme en Chine, d'ailleurs, bon, évidemment. Oui. Quel regard portez-vous sur cette culture, de cette partie de l'Asie ?
C'est une culture du sud de la Chine. c'est tout à fait ce qu'on trouve aussi dans la province du Fujian ou dans la province du Guangdong. C'est tout à fait différent de la culture du nord de la Chine. C'est une culture beaucoup plus, peut-être plus colorée, plus... peut-être moins de rites. En fait, les rites sont différents.
Non, je disais pas forcément plus gai, dites plus coloré.
Si, c'est très gai. Et puis, il y a beaucoup de coutumes qui se sont conservées. C'est extraordinairement vivant. Et les gens continuent à observer les coutumes, les cultes, par exemple, dans la campagne, les cultes, les fêtes dans les temples, continuent à être observés avec... beaucoup d'enthousiasme par toute la population, même par les jeunes générations qui, en même temps, s'intéressent à la culture pop. Et... Il y a aussi une création artistique à Taïwan, alors une création contemporaine qui est extraordinairement vivante et qui se manifeste dans la musique, dans les arts dramatiques, en littérature, en peinture, en sculpture, en architecture. C'est extraordinaire. Là, Gao Xingyan a pu faire créer son opéra. C'est donc la conjonction de la grande culture chinoise, parce que c'est un artiste de... qui est en réalité né sur le continent et qui est maintenant mis en scène par ses compatriotes de Taïwan.
Alors 2004, année de la Chine, en France évidemment, et ce sera l'occasion d'une représentation de cet opéra à Marseille. Nous aurons l'occasion également d'y revenir. Peut-être une dernière question.
Oui, mais je ne suis pas sûr que Pékin soit très content parce que les autorités de Pékin, pas les Chinois du continent, mais les autorités de Pékin veulent faire le silence sur Gao Xingyan puisqu'il a quitté la Chine.
Mais il s'exprimera quand même à Marseille dans le cadre de cette année.
Ah oui.
Une question peut-être un petit peu plus personnelle pour terminer, Marianne Bastide-Bruyère. Qu'est-ce qui vous fascine encore aujourd'hui en Asie, donc en Chine et particulièrement à Taïwan? Est-ce qu'il y a un fait particulier qui retient votre attention?
C'est la capacité de création et la capacité de s'adapter à la transformation scientifique et technique qui s'accélère actuellement. Et je trouve que, alors qu'on a toujours pensé que pendant tout le 19e siècle, on trouvait les Chinois tellement conservateurs, et pendant une partie du 20e siècle aussi, ou très dogmatiques, il y a une sorte de retournement, et ils ont une facilité, une rapidité pour attraper les nouveaux développements de la science, de la technique, s'y adapter, puis créer des genres de vie qui permettent de les utiliser au mieux, sans se laisser dominer, que je trouve... absolument fascinante. J'ai un jeune étudiant qui, lui, n'est pas de Taïwan, il est du continent. Et il fait sa thèse avec moi sur quelque chose que je trouve très intéressant, c'est la création littéraire actuellement directement sur le web, sur l'Internet. Il y a des auteurs chinois qui créent et diffusent leurs œuvres, mais de la poésie, des romans, des essais, directement sur le web. Donc ça permet de diffuser une œuvre littéraire beaucoup plus rapidement, mais des opéras aussi, on peut les diffuser comme ça. Et en Europe, ça n'existe pas, ça. Au maximum, on met un livre déjà imprimé sur le web et on le donne, mais on ne crée pas directement. Tandis que là, c'est l'inverse. Ils créent d'abord, et ensuite, éventuellement, les éditeurs vont publier le livre pour que les gens puissent avoir l'ouvrage en papier chez eux s'ils ont envie. Et à Taïwan, c'est la même chose. Chaque fois que je vais à Taïwan, je suis sidérée par l'invention, l'imagination qui se déploie. Et peut-être c'est ça, c'est la jeunesse d'esprit de ces populations qui me fascine.
Et puis la longueur d'avance.
Et l'optimisme qui règne.
Merci beaucoup, Madame Marianne Bastide-Bruguière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je dirais fin connaisseur de la Chine moderne et contemporaine. Vous avez collaboré avec d'éminents sinologues du monde entier. Vous avez enseigné également, je le rappelle, à l'Université de Pékin, vous-même qui avez étudié le chinois à l'École nationale des langues orientales vivantes. Merci pour ce témoignage sur Taïwan principalement. Je vous dis à très bientôt, Madame.
Écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.